Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 novembre 2024. Voici le sommaire. Les Américains élisent demain leur futur président, un scrutin historique et imprévisible alors que les sondages ne parviennent pas à départager les deux principaux candidats.
La situation est très instable, on ne sait pas trop où ça va aller, mais autrement, c'est quand même très très serré.
À suivre l'analyse du politologue Jean-François Cesnec dans quelques instants. À suivre également les portraits de la probable future First Lady.
As a fashion model.
En tant que mannequin de mode et personne souvent invitée à des soirées UP à New York, je crois savoir que c'est ainsi qu'elle a rencontré Donald Trump.
Ou du possible futur first gentleman.
Il y a des déjeuners, il y a un événement à la résidence du vice-président. Je me suis donc assuré de participer à ces événements traditionnels. Et en tant que premier gentleman, il y a certaines traditions que je m'attends à respecter fidèlement.
Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons au Sénégal où des milliers d'hectares de champs ont été ravagés et plus de 80 villages impactés par les inondations. Et au Cameroun, où une psychose généralisée habite les conducteurs de taxis à Yaoundé suite à l'assassinat de 35 des leurs ces deux derniers mois. Ce sera juste avant la page des sports de Élisée Oumpatine. Jour J-1 pour les élections générales ici aux États-Unis. Jamais l'issue d'un duel présidentiel n'avait été aussi imprévisible entre deux candidats que tout oppose. La vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump ont continué dimanche de sillonner les États clés qui vont décider si l'Amérique va ouvrir pour la première fois les portes de la Maison-Blanche à une femme ou au contraire y renvoyer le milliardaire. Le point avec Eric Manirakis.
Du Michigan à l'Arizona en passant par le Nevada, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord, Donald Trump et Kamala Harris y concentrent leurs derniers efforts pour arracher la victoire. Samedi, Kamala Harris s'est essayée à un exercice d'autodérision dans l'émission humoristique Saturday Night Live. La candidate démocrate fait campagne au centre et compte sur la défense du droit à l'avortement pour mobiliser en masse les femmes.
Donald Trump n'a pas fini. Il interdirait l'avortement dans tout le pays. Il limiterait l'accès au contrôle, à la contraception. Il mettrait en danger les traitements de la fécondation in vitro et forcerait les États à surveiller les grossesses des femmes. Il suffit de chercher sur Google le projet 2025. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait mis par écrit. Et je pense que tout le monde ici sait qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner sa foi ou ses convictions profondes pour être d'accord. Le gouvernement ne devrait pas dire à la femme quoi faire. Ni le gouvernement, ni Donald Trump.
Kamala Harris se présente comme la candidate des classes moyennes. Elle veut créer une économie des possibles. Elle promet un crédit d'impôt à la naissance, une aide à l'accession à la propriété immobilière et un coup de pouce à la création d'entreprises. Donald Trump se présente en homme providentiel pour des États-Unis, menacé selon lui d'un cataclysme économique et envahi par des millions d'immigrés clandestins meurtriers. Le candidat républicain s'est aussi engagé à faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pour lui, la question de la frontière est le sujet numéro un. Il est allé beaucoup plus loin, promettant la plus grosse opération d'expulsion de migrants clandestins de l'histoire des États-Unis.
Je maintiendrai les communautés américaines pour les citoyens américains. Nous allons avoir des Américains dans nos communautés maintenant. Nous n'allons pas laisser cela. Vous savez que ces gangs ont des armes plus puissantes que celles des militaires. Et que même la police, je veux dire, c'est très dur, très dur.
En revanche, Kamala Harris a expliqué qu'elle aurait une politique de fermeté en estimant qu'il fallait des conséquences pour les personnes entrant de manière illégale. Le dernier sondage New York Times, Siena, concentré sur les 7 États cruciaux, fait état d'écart trop infime pour permettre la moindre conclusion. Comme Kamala Harris, plus de 76 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée ou par la poste. Demain mardi, lorsque les bureaux de vote fermeront, une période d'attente fébrile commencera. Nul ne sait s'il faudra des heures ou des jours pour que les médias américains, dont c'est traditionnellement la prérogative, attribuent la victoire à l'un ou l'autre. Alors que le monde attend de savoir si l'Amérique va ouvrir pour la première fois les portes de la Maison-Blanche à une femme ou y renvoyer Donald Trump, l'ancien président républicain a déjà posé les jalons d'une contestation en cas de défaite. Cependant, dit Kamala Harris, les systèmes en place pour cette élection en 2024 sont fiables. Au-delà de la présidentielle, les Américains vont également voter pour renouveler le Congrès. 34 sièges de sénateurs sur 100 et les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu. 11 des 50 États américains éliront de nouveaux gouverneurs. La question de l'avortement fait l'objet de plusieurs référendums locaux. Des dizaines d'autres référendums sur des questions diverses et variées seront organisés à travers les États-Unis. Des milliers de postes seront également renouvelés au niveau local. Assemblée législative des États, juges, maires et conseils municipaux, comtés, shérifs, etc.
En tout cas, pour ce qui est de la présidentielle, elle s'annonce très serrée et pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans l'un ou l'autre des États très disputés. Aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Annapolis dans l'État du Maryland Jean-François Cesnec, directeur de Lafayette Group.
Écoutez, je pense que ce qu'il y a, c'est que bien sûr, ces trois États sont très importants parce que les sondages les donnent à peu près à égalité dans les trois États. Et ces trois États qui ont un nombre assez important de grands électeurs. Donc, ça pourrait faire la différence parce qu'il leur faut 270 voix à chacun parmi les grands électeurs. Et il suffit qu'il y ait une différence de un électeur, bien sûr. Ça pourrait effectivement changer la donnée des choses.
À ce stade de débat, est-ce qu'il reste encore des gens à convaincre?
Honnêtement, je ne pense pas. Beaucoup de gens disent qu'ils ont besoin d'être convaincus, mais c'est parce qu'ils n'osent pas dire vraiment ce qu'ils pensent. Je pense qu'effectivement, on pourrait même faire un scénario où beaucoup de gens pourraient dire qu'ils n'osent pas dire qu'ils voteraient pour une femme, et surtout une femme noir, parce que ça ne ferait pas assez bien vis-à-vis de leurs voisins, et peut-être qu'il y a en fait beaucoup de gens qui vont voter pour Kamala Harris, mais qui n'osent pas le dire, si vous voulez. Un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé il y a 8 ans, quand Donald Trump avait été élu.
C'était Jean-François Cesnec, directeur de Lafayette Group, joint à Annapolis dans l'État du Maryland. En cas de victoire de Donald Trump, son épouse Melania reviendra à la Maison-Blanche comme première dame. Cette mannequin slovène à succès avait déjà vécu une expérience douce amère sous les feux de la rampe quand son mari a été élu président en 2016. Voici un aperçu de sa vie et des attentes des électeurs pour son potentiel nouveau rôle de First Lady, un sujet de Veronica Balderas Iglesias de la VOA, raconté par Claire Morin-Gibourg.
Ses parents l'ont appelée Melania Knavs. Le monde entier la connaît désormais sous le nom de Melania Trump, ancienne première dame des États-Unis. Elle est née le 26 avril 1970 à Novo Mesto, en Slovénie, dans l'ancienne Yougoslavie. Pendant son enfance, dans la ville de Sevnica, son père vendait des voitures et sa mère travaillait dans l'industrie textile. Melania s'intéressait cependant à la mode, se souvient Mirjana Jelančić, son ancienne camarade de classe.
Elle aimait aussi dessiner, elle faisait de nouveaux vêtements avec les anciens.
Melania Knavs a interrompu ses études de design et sous le nom de Melania Knos a poursuivi une carrière de mannequinat en Europe. Dans les années 1990, son succès l'a amenée aux États-Unis.
As a fashion model
En tant que mannequin de mode et personne souvent invitée à des soirées UP à New York, je crois savoir que c'est ainsi qu'elle a rencontré Donald Trump.
Melania Knauss est devenue Melania Trump le 22 janvier 2005 et a donné naissance à son unique fils Baron un an plus tard. La même année, elle est devenue citoyenne américaine. La vie de Melania Trump a pris un tournant différent lorsque son mari s'est présenté à l'élection présidentielle américaine de 2016 avec le Parti républicain et qu'elle l'a rejoint sur le chemin de la campagne.
C'est merveilleux d'être ici aujourd'hui avec vous et avec mon mari. Je suis très fière de lui.
Donald Trump a prêté serment en tant que 45e président des États-Unis en janvier 2017. En tant que première dame, Melania Trump a fait le tour du monde et s'est engagée dans des projets tels que la campagne Be Best, axée sur le bien-être des enfants, la sécurité en ligne et la lutte contre l'abus d'opioïdes. Après avoir quitté la Maison Blanche, Melania Trump a pratiquement disparu de la scène publique. Elle est réapparue occasionnellement pour soutenir la candidature de son mari à la réélection en 2024 et pour promouvoir ses mémoires.
L'écriture de ses mémoires a été un périple profondément personnel et introspectif pour moi.
Austin Smith, électeur du Wisconsin, a voté pour Donald Trump en 2016. Il nous a fait part de ses espoirs quant à l'éventuel retour de Melania Trump à la Maison Blanche.
J'aimerais qu'elle s'occupe de quelque chose qui me tient à cœur, une chose qui me passionne vraiment. Ce sont les repas dans les cantines scolaires.
L'électrice démocrate Jaclyn Kaur aimerait que Melania Trump soit, entre autres, une première dame qui a de l'impact.
Pas seulement comme une personnalité qui se tient derrière le président, mais comme une femme avec une certaine forme de pouvoir.
Selon l'analyste Catherine Jellison, si Melania Trump redevient première dame pour un second mandat, elle continuera probablement à se tenir à l'écart des feux de la rampe.
Si par contre la candidate démocrate Kamala Harris est élue présidente des États-Unis, son mari Doug Emhoff deviendra le tout premier first gentleman du pays. L'ancien avocat spécialisé dans le divertissement vient de passer près de 4 ans en tant que premier second gentleman. Son portrait avec Dora Mekouar de la VOA, un récit de John Lyndon.
Doug Emhoff a passé près de 4 ans à être le plus grand supporter de sa femme.
I love you.
Je t'aime tellement, je suis fier de la façon dont tu t'es engagé pour nous tous.
C'est un rôle que l'ancien avocat du spectacle espère continuer à jouer si Kamala Harris est élue présidente et si Emhoff entre dans l'histoire en devenant le premier conjoint masculin d'une présidente américaine en exercice.
Je vais l'aborder de la même manière. Comment puis-je lui être le plus utile en tant qu'époux? La soutenir, l'aimer comme toujours et être là pour elle, mais aussi comment puis-je l'aider en tant que présidente? Aider l'administration, aider le peuple américain, en étant le premier gentleman. Et quels sont les sujets que je peux vraiment faire avancer?
Emhoff a épousé Harris en 2014 après une rencontre à l'aveugle. Au fur et à mesure que la fortune politique de sa femme augmentait, Emhoff a très publiquement embrassé le rôle de conjoint de soutien.
Il a été très clair. Je ne suis pas au-dessus de ces rôles de soutien et je ne veux pas qu'on pense que parce que je suis un homme, je ne peux pas jouer ces rôles de substitution et de soutien.
Emhoff a abandonné son travail dans un cabinet d'avocats et a commencé à enseigner à l'université de Georgetown lorsque Kamala Harris est devenue vice-présidente.
Étant le premier homme à faire cela, parlons des questions de genre. J'ai beaucoup parlé d'équité entre les sexes, d'équité salariale, des congés familiaux, des gardes d'enfants.
Aux États-Unis, les conjoints politiques au plus haut niveau ont toujours été des femmes. Mais Emhoff a montré qu'il savait s'adapter, explique Anita McBride de l'American University.
Ils parlent de leur vie de famille, dit d'emblée, je suis ici pour servir. Mon travail le plus important est de soutenir la vice-présidente.
En tant que deuxième gentleman, Emhoff, qui est juif, a également dirigé une initiative de lutte contre l'antisémitisme pour l'administration Biden. Les premières dames se concentrent traditionnellement sur les activités sociales telles que la supervision des dîners d'État et l'approbation des décorations de vacances de la Maison Blanche.
Vous regardez la nourriture, les fleurs et la porcelaine. Est-ce que ce sera quelque chose qu'il voudra faire? Peut-être que oui, peut-être que non.
En tant que président de l'Organisation des conjoints des sénateurs, Emhoff a déjà montré qu'il était prêt à accepter la tradition.
Il y a des déjeuners, il y a un événement à la résidence du vice-président. Je me suis donc assuré de participer à ces événements traditionnels. Et en tant que premier gentleman, il y a certaines traditions que je m'attends à respecter fidèlement.
Les premières dames font généralement don de leur tenue d'inauguration au Smithsonian Museum de Washington. Reste à savoir si un costume masculin rejoindra bientôt la collection.
C'est avec ce portrait de Doug Emhoff que se referme cette page spéciale consacrée aux élections américaines. Mais ne raccrochez pas, dans quelques instants, la suite du journal. Écoutez sur VOA Afrique, l'édition matinale du Monde aujourd'hui. Mouamadou Oumfa, toujours en votre compagnie. À présent, d'autres faits marquants de l'actualité. Au Soudan, 13 personnes ont été tuées par balle dimanche lors d'une attaque dans l'état d'Al Jazeera, selon une source médicale qui accuse les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide, en guerre contre l'armée depuis un an et demi. Les belligérants sont actuellement engagés dans de violents combats dans l'état d'Al Jazeera, contrôlé par les FSR, depuis la fin de l'année dernière, après la défection d'un de leurs chefs dans cet état pour rejoindre le camp adverse. Les paramilitaires ont lancé des attaques dans certaines régions et des affrontements ont éclaté, causant la mort d'environ 200 personnes en une dizaine de jours, selon les autorités et des médecins. La vague de violence dans l'état d'Al Jazeera a entraîné le déplacement d'environ 119 000 personnes vers les états de Kassala et Guédaref, selon le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires. En Ouganda, au moins 14 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées dans un camp de réfugiés après que la foudre a frappé une église de fortune dans laquelle elle s'était abritée lors d'un violent orage, ont indiqué dimanche des responsables locaux. Une cinquantaine de personnes avaient trouvé refuge dans l'église du camp de réfugiés de Palabek dans le nord, samedi soir, lorsqu'un violent orage s'est abattu sur la région. Les réfugiés étaient pour la plupart issus de la communauté Nuer du Soudan du Sud. Le gouvernement travaille avec le HCR et d'autres agences pour fournir l'assistance nécessaire aux survivants, a déclaré le ministre ougandais des réfugiés et de la préparation aux catastrophes. Plus de 500 mineurs clandestins ont été arrêtés en Afrique du Sud après que les forces de sécurité ont coupé leur route d'approvisionnement en eau et nourriture, les forçant à quitter un puits de mine abandonné, a indiqué la police dimanche. Connus sous le nom de Zamazama, ceux qui essaient, en Zoulou, les mineurs ont refait surface dans une mine d'Orkné, une ville aurifère du canton de Klerksdorp dans la province du Nord-Ouest. L'opération se poursuivait dimanche et des centaines, voire des milliers de mineurs affamés et assoiffés pourraient revenir à la surface selon la police. Des milliers de mineurs clandestins, souvent originaires d'autres pays, travaillent dans des conditions difficiles en Afrique du Sud, riches en minerais. Leurs activités illégales sont vues d'un mauvais œil par les compagnies minières comme par les habitants qui les associent à une hausse de la criminalité. Le FMI commencera demain mardi à passer en revue le programme de prêt de 46 mois à l'Égypte, a déclaré dimanche le Premier ministre Mustapha Madbouly. L'examen initialement prévu pour la fin septembre fait partie d'un accord de prêt que l'Égypte a signé avec le FMI en avril, qui a été porté plus tôt cette année de 3 à 8 milliards de dollars pour aider le pays à gérer ses défis économiques. Cet examen doit aboutir à débloquer 1,2 milliard de dollars de nouveaux financements du FMI. C'était tout pour l'actualité. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, la crue du fleuve a laissé plusieurs milliers de personnes dans le désarroi. Des milliers d'hectares de champs ont été ravagés et plus de 80 villages impactés dans les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. La plupart seront relogés dans des camps de fortune dans des conditions très difficiles. Reportage de notre correspondant Wahani Johnson Sambou.
La crue du fleuve Sénégal laisse derrière elle un spectacle désolant dans le nord et le nord-est du pays. Rien que dans la région de Saint-Louis, plus de 80 villages et plus de 4000 hectares ont été inondés, provoquant plus de 8100 sinistrés. Des habitants qui ont presque tout perdu, leur maison, leur culture et le peu de confort auquel ils avaient droit dans ce lieu qui manquait presque déjà de tout. Bokar Alassane Sall, sinistré d'un village appelé Loboudou Doué.
Les dégâts sont énormes par rapport aux agriculteurs, par rapport aux habitations, par rapport aussi à l'élevage. Il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà fait les semences de l'oignon. Mais à un moment, tout a été gâté par l'eau. Avec de la crue, ils ont tout perdu.
C'est dans un ancien entrepôt à une vingtaine de kilomètres de leur village que la majeure partie des sinistrés de Loboudou Doué sont relogés. Plusieurs dizaines de familles sont entassées ici dans des conditions précaires. Une situation insupportable pour Fatoumata Dieng, mère de 6 enfants.
Nous nous inquiétons pour nos familles. Chaque parent souhaiterait que sa famille vive dans de bonnes conditions, mange bien, dort confortablement. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus tout ça.
Les larmes de cette quadragénaire témoignent du désespoir des sinistrés. Un désarroi d'autant plus grand que l'administration locale manque cruellement de fonds pour satisfaire leurs besoins. Mais sur place, l'aide s'organise autour de la municipalité. Mamadou Oumar Diallo, conseiller municipal.
Les moyens sont limités. Je sais qu'au moment où nous sommes, le maire a autorisé à ce que les gens exécutent 2 lignes budgétaires qui concernent ces populations. C'est de l'ordre de 5 300 000 qui sont aujourd'hui engagés, mais les procédures restent à l'état d'engagement et le maire a saisi le percepteur pour que les gens soient diligentés.
Mais la municipalité peut compter sur l'appui de l'État du Sénégal qui a déjà dégagé un budget provisoire de 8 milliards de francs CFA pour les sinistrés des régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, c'est la psychose généralisée dans les rangs des conducteurs de taxi à Yaoundé, la capitale, suite à l'assassinat ciblé de certains. Selon le Sinester, syndicat national des employeurs des transports terrestres, 35 chauffeurs de taxi ont trouvé la mort ces 2 derniers mois après avoir embarqué leur bourreau à bord. Les autorités sécuritaires enquêtent sur le phénomène. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Les bourreaux emploient le taxi au centre urbain et les amènent dans les arrondissements avoisinants de Yaoundé et les assassinent.
C'est par ce mode opératoire décrit par Colix de Fossoken, président du syndicat national des employeurs des transports terrestres, Sénester, que plus d'une trentaine de chauffeurs de taxi ont perdu leur véhicule et leur vie à Yaoundé. De quoi inquiéter ce syndicaliste.
Parce qu'on peut quand même pas comprendre que moins de 10 bons hommes puissent se défier la gendarmerie nationale du Cameroun. Le délégué général de la sécurité nationale et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale ont été interpellés et nous n'avons eu qu'une rencontre avec la gendarmerie qui a bien voulu nous ouvrir leurs portes pour qu'on leur présente le problème et qu'ensemble on trouve, n'est-ce pas, les moyens pour essayer de juguler le phénomène.
Plusieurs caméras de surveillance sont installées dans la ville de Yaoundé, mais les conducteurs de taxi sont aux abois. Aboubakar Peménier, conducteur de taxi.
Les caméras de surveillance peuvent apporter une solution dans le cas où ça fonctionne. Parce qu'avec tout ce genre d'agression, je ne sais pas si ça fonctionnait, on allait même au moins attraper quelques-uns. On nous impose de faire un badge d'identification. C'est le passager qui identifie le chauffeur. Le chauffeur n'identifie pas celui qu'il porte. Ce qui n'est pas tout à fait normal.
Idrissou a déjà 15 ans de métier comme chauffeur de taxi. Il dit craindre un phénomène sans précédent.
Yaoundé est gâté avec les agressions. On tue nos collègues beaucoup partout. Quand on voit quelqu'un qui est un peu suspecté là, on esquive la personne. Et quand on dit un peu les zones reculées comme ils sont là, les zones reculées comme ça, on essaie d'esquiver. Tu sais que ce sont déjà les gens compliqués.
L'enlèvement et l'assassinat ciblé des conducteurs de taxi à Yaoundé fait aussi planer le danger sur la sécurité des usagers, explique Colix Defosoken, président du syndicat national des employeurs des transports terrestres.
On en compte près de 35 taximens déjà aujourd'hui assassinés. Et quand ils ont fini de les assassiner, ils prennent leur véhicule et ils passent, n'est-ce pas, le clair de leur temps à faire de sales besognes, à transporter les clients et les agresser. dans le centre urbain.
Marguerite Essama Barga travaille dans le secteur informel. Elle a été victime d'une agression dans un taxi à Yaoundé.
On m'avait pris au niveau de casino. Au centre-ville, c'était pour arriver à Damas, c'était en 18h30. 18h30, ils sont passés derrière les ministères. Bon, c'est dans ma tête, du coup, c'est la route qui mène, comme il y a plusieurs routes, alors que c'était pour aller appuyer mon cours dans le taxi. J'avais pris le petit sac à main que j'avais.
Les recherches étant en cours, la gendarmerie nationale n'a pas souhaité se prononcer sur l'assassinat ciblé des conducteurs de taxi. Il a été néanmoins recommandé aux chauffeurs d'installer désormais un dispositif GPS dans leur véhicule. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
À présent, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Oumpatine. Salut Élisée.
Bonjour Mouhamadou et bonjour à tous.
Du football avec le premier tour du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN.
Oui, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays. Et vainqueur à domicile du Bénin 2-0 à l'aller, le Togo a assuré sa qualification pour le second et dernier tour après le nul 1-1 du match retour. Moins brillant à Abidjan, les Éperviers ont assuré l'essentiel, reconnaît leur entraîneur Kader Koubadia Touré.
L'objectif, c'est d'être qualifié. Le match aller, on a fait une belle prestation. Aujourd'hui, bon, c'est le foot. On était loin de notre standard. Mais je savais que oui, on pouvait faire quelque chose ici et féliciter mes joueurs qui ont tout fait pour résister, sachant que c'était difficile émotionnellement.
Kader Koubadia Touré, sélectionneur de l'équipe locale du Togo au dernier tour. Les Togolais seront aux prises avec le Niger, demi-finaliste de la dernière édition du CHAN.
Élisée, pour la suite des qualifiés, on note le Libéria dans la zone A de l'UFOA.
Les Lone Stars ont écarté la Sierra Leone et affronteront le Sénégal au prochain tour. Dans la zone CECAFA, le Rwanda a assuré sa qualification en étriant 3-0 Djibouti qu'il a battu 1-0 à l'aller. Pour le reste des qualifiés dans cette zone, ça passe pour le Soudan et le Soudan du Sud qui ont écarté respectivement la Tanzanie et le Kenya. Et puis, au niveau de la COSAFA, l'Eswatini jouera à Madagascar au prochain tour après avoir battu deux fois le Zimbabwe 3-0 et 1-0. Les matchs allés de ce dernier tour des éliminatoires auront lieu du 20 au 22 décembre prochain. Les retours une semaine plus tard.
La balle au panier avec les qualifications pour la nouvelle saison de la Basketball Africa League.
Oui, une nouvelle étape dans la route vers la phase finale de cette balle qui aura lieu en 2025. Et après le tournoi de Douala, la première étape des éliminatoires, ce sont les Congolais de Show Sport et les Camerounais de Kaji Sport qui ont validé leur qualification pour l'élite 16 qui débute demain à Abidjan. Et quatre clubs sont en lice pour cette étape ivoirienne. Le club local d'ABC, Abidjan Basketball Club, Net Spintes du Ghana, Mighty Barol du Libéria et Elan Coton du Bénin.
En cyclisme, la 35e édition du Tour international du Burkina Faso s'est achevée hier dimanche.
Après 10 étapes de course, le maillot jaune est revenu au Marocain Moussine El Kouradji de Ouagadougou. Pour le point, on retrouve notre correspondant, Kader Traoré.
Les rideaux sont tombés sur le Tour cycliste international du Faso édition 2024. La victoire finale est revenue au Marocain Moussine El Kouradji qui a ravi le maillot jaune. Mieux, le podium de cette année est 100%. Lion de l'Atlas, forçat de la route venu de Raoum Chérifien ont discuté l'ensemble des 10 victoires d'étape avec les Russes. 3 pour le Maroc, 4 pour la Russie. Le grand vainqueur de la course, Moussine El Kouradji.
Je suis très très heureux pour gagner le Tour de Burkina Faso. Alhamdulillah, je veux passer un merci à toute l'équipe de Maroc qui travaille pour moi.
Après le retrait de l'UCI, c'est le commissaire burkinabé Lambila Ouédraogo qui a conduit la caravane. Il se prononce sur le niveau de cette compétition.
Quand vous regardez effectivement la vitesse moyenne, je pense que la plus faible c'était l'étape de Bobo où on a fait 39. Sinon le reste là c'est 40 et plus. C'est la préparation des équipes pour rentrer. Dans les éditions à venir, il faudra que les autorités mettent du sérieux dedans.
Le sérieux, c'est une préparation conséquente des équipes nationales du Burkina afin de donner la bonne réponse aux coureurs venus du Maroc et de la Russie. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Merci Élisée. Et c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumpha, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info, c'est 24h sur 24 sur notre site web voaafrique.com ainsi que sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.